Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. J'espère que vous allez bien et que l'épisode précédent vous a plu. Aujourd'hui, je vous emmène explorer de nouveaux sommets, cette fois-ci au-delà même du ciel. En 1992, notre héroïne du jour marque l'histoire en devenant la première femme noire à voyager dans l'espace. Petite, elle rêve déjà d'exploration, alors qu'elle regarde avec admiration tous ses héros de Star Trek. À partir de là, elle va tout faire pour rejoindre la NASA. Et ce jour arrive en 1987, alors qu'elle est recrutée face à des milliers de candidats. Mais elle n'est pas qu'une astronaute. Elle se consacre aussi à la science et à l'éducation en donnant vie à des initiatives pour rendre l'espace accessible à tous les rêves. Alors sans plus attendre, partons à la rencontre de cette épatante scientifique, j'ai nommé Mae Jemison, ou le portrait d'une vie à décrocher les étoiles. Devenir une héroïne dans la vraie vie, comme dans la fiction. Dans un des épisodes de la saison 6 de Star Trek, les fans ont pu voir apparaître en 1993 le lieutenant Palmer qui n'est autre que Mae Jemison. Si un jour on lui avait dit qu'elle jouerait l'astronaute à la fois dans la vie et à l'écran, cette petite fille de l'Alabama n'y aurait peut-être pas de suite cru. Mae Carol Jemison voit le jour en octobre 1956 dans une famille modeste. Son père Charlie travaille dans une association caritative et sa mère Dorothy est enseignante. Lorsqu'elle est petite, Mae est effrayée par à peu près tout ce qui l'entoure, surtout le noir. Et comme elle est la petite dernière, il lui arrive que ses frères et sœurs trouvent de quoi l'embêter facilement. Mais s'il y a bien une chose dont elle est sûre, dès la maternelle, c'est qu'un jour, elle deviendra une grande scientifique. Et puis sa famille déménage, direction le nord des États-Unis et la grande ville de Chicago. Leur premier quartier est plutôt mal famé, on entend souvent des coups de feu, alors que dehors, des gangs s'affrontent régulièrement. Mais c'en est rapidement trop pour les parents de Mae. Ils déménagent de nouveau, cette fois-ci dans un quartier plus résidentiel, où ils sont pratiquement les seuls noirs. À l'école, elle ne baisse pas les bras malgré les remarques sexistes et racistes auxquelles elle peut être confrontée, surtout dans cette époque de soulèvement civil contre la ségrégation raciale. Elle ne baisse pas les bras car Mae est curieuse et pose souvent un milliard de questions sur tous les sujets. Lorsqu'elle est ado, elle consacre son temps libre à ses deux passions les plus chères au monde, la danse et l'espace. Elle supplie ses parents de lui acheter un télescope pour qu'elle puisse enfin regarder les étoiles et les planètes. Mais ils n'ont aucunement les moyens de lui faire un tel cadeau. Alors, plutôt que d'attendre qu'un jour ce télescope arrive, Mae se rend souvent au planétarium. C'est impressionnant de voir à quel point l'univers la fascine. Quand elle est en tête-à-tête avec l'espace, elle n'a plus peur du noir. Elle se sent comme apaisée et à la maison. Puis quand elle revient du planétarium, elle lit un peu de science-fiction. Dans ses romans, on parle souvent d'hommes qui vivent des aventures extraordinaires dans la galaxie. Jamais vraiment de femmes, et encore moins de femmes noires. Elle ne trouve nulle part de modèle qui lui ressemble. Mais à la maison, elle a souvent des discussions sur ce sujet. Ses parents parlent beaucoup de politique, de Martin Luther King, Malcolm X, etc. Ils insistent sur l'importance des droits civiques et Mae grandit avec toutes ses convictions. Sa mère surtout lui apprend qu'être une femme noire, c'est beau, qu'il faut en être fière. En même temps, son père lui explique aussi qu'elle devra travailler 4 fois plus qu'un homme blanc pour atteindre ses rêves. Parce que oui, la réalité, elle est là. Alors Mae est plus motivée que jamais à mettre les bouchées doubles.
I have a dream that one day this nation will rise up.
En avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Le quartier de Mae est alors le théâtre d'émeutes et la répression policière est extrêmement sévère. Mae est petite fille quand elle voit toute cette violence et se rend compte qu'à tout moment, c'est elle qui pourrait prendre une balle. Elle a peur. Elle ne sort pas pendant quelques jours, mais sa colère, elle, gronde au plus profond d'elle. Au lycée, Mae est plutôt forte en sport, mais ses matières préférées ne sont que des sciences. Passionnée et brillante, elle réalise même un projet en classe sur une maladie connue particulièrement des Afro-Américains, appelée l'anémie falciforme. N'ayant pas de ressources à la maison pour effectuer ses recherches, elle décide au culot d'appeler l'hôpital le plus proche pour les interroger. L'équipe sur place est si surprise par les questions de Mae et sa curiosité qu'elle l'invite directement à venir sur place. Avec les chercheurs au laboratoire, Mae observe, prend des notes et cherche pendant des heures. Elle lit une quantité impressionnante d'articles scientifiques. Elle est tellement impliquée qu'elle ne voit pas les journées passer. Alors qu'elle n'a qu'une quinzaine d'années, tout le monde là-bas lui parle comme si elle en avait 20 de plus. Et Mae aime être prise au sérieux comme ça. Finalement, son projet est salué par l'école et récompensé dans un concours de sciences à Chicago. Désormais arrivée à la fin du lycée, Mae a la chance de voir que les universités prestigieuses se bousculent à sa porte pour l'accueillir dans leur programme scientifique. Alors après une mini-seconde de réflexion, Mae fait le choix de partir à Stanford. À 16 ans, elle plonge enfin dans le grand bain de la vie universitaire et de ses études de rêve à l'autre bout du pays. Le changement est grand, mais Mae s'accroche à ses projets, à ses envies. À côté des études, elle s'engage aussi comme représentante des étudiants noirs de Stanford, un rôle qui lui tient énormément à cœur. Et 4 ans plus tard, en 1977, Mae est diplômée d'un double cursus en ingénierie chimique et lettres afro-américaines. Elle a aussi profité d'être à Stanford pour se spécialiser dans d'autres domaines, comme le swahili, la politique, la danse africaine et tellement plein d'autres trucs. Mais rappelons que rien ne s'est fait sans encombre. Pendant toutes ces années, les remarques sexistes et racistes n'ont eu que faire de son incroyable intelligence. Heureusement, Mae s'est bien cramponnée pour trouver sa place parmi les autres étudiants. Après Stanford et la Californie, elle s'en va dans l'État de New York et sa prestigieuse université Cornell pour faire médecine. Encore un cursus très masculin. Ici, on continue de la prendre de haut, mais Mae a plus d'un tour dans son sac et finit diplômée en 1981. Elle a bossé encore plus dur qu'à Stanford pour arriver à ses fins. Mais surtout, c'est dans ce cursus qu'elle réalise l'un de ses rêves, travailler dans des dispensaires au Kenya. Sur place, elle découvre de nouvelles choses sur elle. Elle travaille beaucoup, partage du temps avec les locaux, parle Swahili et se retrouve même en pleine crise existentielle. Elle n'a pas vraiment envie de retourner à New York, alors elle s'engage auprès des Peace Corps au Liberia et en Sierra Leone, un organisme qui agit pour la santé et l'éducation. En tant que médecin, elle fait face à des conditions de travail très compliquées alors que le matériel et les médicaments manquent cruellement. Elle se demande une nouvelle fois si tout ça est vraiment sa voie, la bonne voie. La réponse au fond, c'est non. Elle sait que la médecine, ce n'est pas fait pour elle. Alors comme dans toute bonne crise existentielle, elle va chercher dans son enfance, à l'heure où elle n'avait Dieu que pour l'espace et l'infiniment grand. Un peu comme Dr. Spock dans Star Trek. Et un alignement des planètes plus tard, la NASA est pile en période de recrutement. Nous sommes en 1987 et le vent a tourné dans cette administration. À l'époque, elle cherche surtout à diversifier les profils. Mae se lance et tente sa chance sans trop d'espoir. Et puis un an plus tard, bingo, elle reçoit une réponse positive. Sur 2000 candidats, elle fait partie des 14 sélectionnés pour le programme de formation. Direction le centre Kennedy de la NASA, en Floride. Une fois là-bas, elle suit un entraînement intensif extrêmement physique qui inclut entre autres des stages de survie. À force de persévérance, son rêve d'aller dans l'espace se réalise enfin. Elle intègre la mission américano-nippon STS-47 et part étudier les effets de l'apesanteur sur le corps humain. Le 12 septembre 1992, Mae fait enfin l'expérience dont elle a rêvé gamine depuis le hublot de la navette Endeavour. Ce jour marque aussi celui de la première femme noire dans l'espace. Elle offre ses services pendant 7 ans à la NASA, puis décide de se consacrer à d'autres aspirations. Elle veut notamment développer le goût de la science chez les jeunes et les femmes et lutter pour la représentativité des personnes noires. Avec cette envie, naît The Earth We Share, un projet de camp scientifique destiné aux 12-16 ans qui sensibilise aux enjeux environnementaux. Car oui, ces années dans l'espace ont éveillé la conscience de Mae à ce sujet. Dans un entretien qu'elle donne en 2018 à France 24, elle évoque en ces mots cette incroyable planète bleue, forte, qu'elle a eu la chance de voir de là-haut, et souligne qu'il s'agit sans doute là du problème le plus important auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Depuis 2010, Mae a également pris en charge la mission 100 Year Starship, une initiative de la NASA qui conduit des études sur les voyages interstellaires et la présence de l'homme sur la Lune ou sur Mars. Elle continue donc de remplir sa vie avec tout ce qui la passionne depuis si longtemps. Peut-être qu'au détour d'une convention sur Star Trek aux États-Unis, vous aurez l'occasion de rencontrer cet incroyable esprit. En somme, cette mordue de planète et d'aventure a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de l'épatante Mae Jemison. J'espère que cela vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une femme qui a fait trembler la Chine impériale en s'imposant au sommet du pouvoir. De servante à impératrice, elle œuvre pour son ascension sociale d'une façon fulgurante et inédite. Entre manipulation et alliance stratégique, son intelligence redoutable l'amène même à fonder sa propre dynastie, les Zhou, et à devenir la seule femme à avoir régné sur la Chine en son propre nom. Adulée ou redoutée, elle n'en reste pas moins une figure fascinante de l'histoire. Une rencontre qui s'annonce donc fortement mouvementée. Alors en attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.